la parole de Dieu qui est dedans. Moi, j'ai le privilège, Odélia, il y a le nom de Jean-Marc Tebois dans celle-ci, c'est la première édition. Je vais te faire envie. Mais ce n'est pas le livre qui est important, c'est ce qu'il nous dit, ce qu'il nous transmet. Et cette femme, pendant des années, elle l'a lu, et puis son fils qui faisait des camps catholiques a dit, ben, moi je dois animer des méditations bibliques, est-ce que je peux prendre cette Bible? Et sa mère, je me souviens, ce garçon-là qui était... qui nous a ramené la Bible, nous a dit, bah, elle m'a dit ceci, elle m'a dit, oh bah, moi, ce qu'il y a dedans a fait ce qui devait être fait, c'est-à-dire que ça m'a vraiment sauvé. Tu peux la prendre, à ton tour. Et elle a transmis, elle n'a pas transmis le bouquin, le papier, le carton, elle a transmis la parole de Dieu. Et ce jeune garçon, pendant plusieurs années, a lu cette Bible-là, l'a utilisée pour faire des camps de scouts, et puis il est même allé faire ses études à Rennes avec cette Bible. Ce qui est très intéressant, c'est que moi qui cherchais pendant toutes ces années cette Bible, en fait, cette dame habitait à 250, 300 mètres ou 500 mètres de chez nous. Et quand ce jeune homme est parti à Rennes faire ses études, moi j'étais en train de faire mes études de directeur à Rennes aussi. C'est-à-dire que la Bible, finalement, elle n'était jamais très très loin de moi. C'est l'humour du Seigneur. Et ce garçon, un jour, a découvert sous l'ancienne couverture en tissu le nom du propriétaire. Et donc, il a cherché, il m'a retrouvé et il m'a rapporté cette Bible. Alors, j'ai accepté de la reprendre, mais simplement à condition que je puisse lui offrir une Bible pour lui. Et donc, on a fait un échange de la parole de Dieu. Et dans cette parole, il y a ce texte. « C'est vous qui êtes le sel de la terre, mais si le sel devient fade, avec quoi le salera-t-on ? Et plus loin, c'est vous qui êtes la lumière du monde. » En ce temps très trouble, on peut se demander quelle est la place des croyants, quelle est la place des chrétiens. Dans ce monde où il y a de la souffrance, il y a de l'angoisse, du stress, est-ce qu'il y a une place à la fois pour l'Église, pour les croyants que nous sommes, et pour ce monde qui est en souffrance? Est-ce que l'Église et les croyants ont véritablement une place à tenir? C'est vous qui êtes le sel de la terre. Le sel, c'est quelque chose qui est indispensable, entre guillemets, puisque nous avons une certaine dose de sel à l'intérieur de notre corps. Et les trois évangélistes, Matthieu, Marc et Luc, parlent tous de cette image du sel en tant qu'élément essentiel. Marc dit, le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous ? Ayez du sel en vous-même. Hein ? Matthieu, Luc parlent de cela, on vient de lire Matthieu. Il n'y a que Jean qui a un régime sans sel. Bon, on ne sait pas pourquoi. Mais en tout cas, cette image du sel est quelque chose qui est utilisé, une image que Jésus utilise comme un élément qui est connu de ses contemporains. Je crois que Dieu aime parler aussi en se mettant à notre niveau. Il y a un évêque à Poitiers qui avait dit cette parole que je trouvais très belle. Si vous annoncez Dieu, mettez-vous au niveau du regard de l'autre, pas au-dessus. C'est vrai que parfois, quand nous sommes chrétiens, on regarde tellement les autres d'en haut que ne les regardons pas dans leur regard, à hauteur de leur regard, eh bien notre parole tombe et les écrase. Jésus avait l'art d'utiliser des images qui nous parlaient, qui faisaient partie de notre quotidien. Il utilise cette image du sel pour dire que le sel est indispensable à la vie. Et après, il utilise une autre image, c'est la lumière. Le sel et la lumière. Nous sommes, c'est pour ça que j'ai insisté et répété deux fois cette partie, ça n'est pas dans le texte original. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. À la question que je posais en préalable, à savoir, est-ce que l'Église a une place? Est-ce que le croyant a une place aujourd'hui? Il a d'autant plus de place, le croyant qui porte Christ, que ce monde est dans les ténèbres, dans la peur et dans l'angoisse. Encore faut-il, comme je le disais au préalable, que cette parole, ce sel que nous sommes, soit une parole de sagesse, empreinte d'amour et de grâce. Si nous sommes au-dessus des hommes et des femmes de ce monde, alors nous ne faisons que laisser tomber des paroles de jugement et de condamnation. Christ se mettait à hauteur du regard de l'homme. Le sel, c'était un élément important. Vous savez que le mot salaire, en fait, vient du mot sel. Hein, le salaire, c'était tout simplement la quote-part que les soldats romains recevaient en sel au moment de leur solde, lorsqu'ils étaient payés. Le salarium, c'était la part de sel qu'ils recevaient. Donc c'est un élément important. Notre corps contient environ 230 grammes de sel, sans lequel il nous serait impossible de vivre. L'impôt qu'on a connu pendant plusieurs siècles en France, la gabelle, ça vient tout simplement d'un mot arabe qui veut dire gabella, qui veut dire tout simplement le sel. On disait souvent que rien n'est plus utile que le soleil et le sel, la lumière et le sel. Vous êtes le sel de cette terre et la lumière de ce monde. Alors, on a supprimé l'impôt sur le sel, il est arrivé au 18e, 17e, 18e siècle, et on l'a supprimé seulement en 1945. C'est vous dire si c'est un impôt. En France, les impôts ont la vie dure. Ils ont la vie dure, hein, c'est clair. Hein. Je crois qu'on a supprimé, par exemple, en termes de loi, le port du pantalon interdit pour les femmes dans les années 80. Vous dire si on se demande pourquoi les lois traînent autant. Mais en tout cas, le sel, l'impôt sur le sel a duré longtemps. Il y avait une réalité. La première chose que l'on peut dire dans la Bible, c'est que le sel a une importance voulue par Dieu comme un symbole de plusieurs éléments. Le premier, c'est que le sel, c'est le symbole de l'alliance. Si vous lisez le Lévitique au chapitre 2, verset 13, il est dit par Dieu, on doit déposer du sel sur chaque offrande végétale. Jamais on ne négligera d'en mettre, car le sel symbolise l'alliance conclue par Dieu avec vous. C'est pourquoi une offrande de sel sera jointe à tout sacrifice. Le Lévitique est un livre de l'Ancien Testament qui concrétise l'attachement de la nation d'Israël avec le Seigneur, sa consécration. Et en même temps, c'est une manière aussi pour Dieu de donner une manière d'être et de faire qui les différencie des autres nations qui sont autour. Et dans ce geste, mettre du sel, le sel représentait l'alliance, le lien, la volonté d'être l'un à l'autre, à la fois de Dieu, mais aussi des hommes. Tu ne donneras pas une offrande qui ne sera pas accompagnée de sel. Alors pourquoi le sel? C'est la Bible de Jérusalem qui dit, dans ses notes, on attribuait au sel une valeur purificatrice, et chez les Assyriens, même chez les nomades, on utilisait le sel comme signe d'alliance. D'ailleurs, chez les nomades, lorsque sous la tente on partageait le sel, c'était une manière de dire, on fait une alliance provisoire, certes, mais tant que tu es là et que je te reçois et que nous partageons le sel, il y a un lien entre nous, d'amitié, d'alliance, il ne te sera fait aucun mal. Alors quoi de plus naturel, plus significatif que d'ajouter du sel aux offrandes? Il y a d'ailleurs dans le livre des Nombres, au chapitre 18, au verset 19, et puis aussi dans le livre des Chroniques, le Seigneur qui parle d'une alliance de sel pour souligner que c'est une alliance durable. Une alliance durable et stable. Une alliance de sel. Ça veut dire qu'en faisant alliance avec nous, non seulement le Seigneur nous rend purs, parce que le sel a aussi cet aspect-là, on le verra, d'être purificateur, mais il nous donne aussi le pouvoir de purifier le monde dans lequel nous vivons, d'en chasser ces idées néfastes, tout ce qui corrompt, avilit ou abîme. En ce moment, on voit bien l'esprit de ce monde dans les révoltes qui, des États-Unis jusqu'en Europe, parlent d'un monde de violence, de haine, de racisme. Je suis toujours étonné d'entendre parler de cet Américain qui a été tué, George Floyd, Et à chaque fois que les journalistes en parlent, ils disent toujours cet homme afro-américain. Et moi, je trouve que c'est déjà une différence qui est soulignée, marquée, afro-américain. Il n'est pas américain, il est afro-américain. On dit oui, mais c'est pour souligner le fait qu'il est noir. Rémi, européen, blanc, indo-européen, et Jean-Marc, vietnamo-français. Si quelqu'un s'adressait à moi en faisant la différence entre Rémi et moi, je disais, mais pourquoi moi je serais moins blanc? C'est vrai que je le suis un peu, mais moins blanc que Rémi. Ce monde est un monde de haine, de colère, où l'homme, je dirais, lutte contre lui-même. Mais ce qui m'émerveille ou ce qui est étonnant, c'est que Dieu n'a pas attendu l'incarnation de Jésus pour parler le langage des hommes, il a voulu toujours prendre des mots et des images pour nous parler de sa sainteté, pour nous faire connaître qui il est. Je ne sais plus où j'ai lu ça, mais il y a quelqu'un qui, en parlant de Dieu, disait, Oh Dieu, très bas. Parfois j'ai lu ça, je dis, oh, c'est très haut. Non, 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 Dieu très bas, Dieu qui s'est abaissé, qui s'est mis à mon niveau, qui est venu sur cette terre dans une chair semblable à la mienne, avec des tentations auxquelles je suis soumis. Dieu très bas au milieu de nous et Dieu très haut, assis à la droite du Père aujourd'hui. Le sel, c'est un agent purificateur. Dans le Lévitique, il en est parlé, mais dans le deuxième livre des Rois, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce récit d'Élisée, qui était un très grand prophète de Dieu, et l'Esprit du Seigneur étant avec lui, il a été le successeur d'Élie, et il y a eu un problème à Jéricho. À Jéricho, il y a des personnes qui sont venues le voir, les habitants sont venus le voir, dire, comme tu peux le voir, mon Seigneur, notre ville est bien située. Ah, c'est bien, c'est impeccable. Pas mieux que Kevin, non, que Jéricho. Il n'y a pas mieux. Mais il y a un problème, l'eau est malsaine et la terre ne produit rien. Alors, que dit Élisée? Apportez-moi du sel dans une écuelle neuve. Il lui apporte. Et là, Élisée se rend à la source et jette le sel en disant, Voici ce que déclare le Seigneur, j'ai rendu cette eau saine. Elle ne causera plus la mort des êtres vivants ni la stérilité de la terre. Et en effet, l'eau devint saine. Elle l'est encore aujourd'hui, conformément à ce qu'Élisée avait annoncé. Deuxième livre des Rois, chapitre 2, verset 19. Ce sel qui vient et qui purifie. Est-ce que ce monde peut être changé, transformé? Oui, mais pas par lui-même, pas par l'esprit du monde. Quelles que soient les bonnes volontés, je crois pertinemment que ce monde pourra changer de manière réelle, profonde, essentielle, dans la mesure où ceux qui sont le sel de la terre et la lumière du monde joueront le rôle qu'ils ont à jouer vis-à-vis de cet univers. Toutes les autres tentatives, à mon sens, ne seront que des cataplasmes sur une jambe de bois. Des efforts, certes, mais si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui change les choses, qui change les hommes et les femmes, je crois que toute autre tentative est vouée, sinon à l'échec, en tout cas, à un long chemin, et on le voit, toutes les tentatives pour changer l'approche écologique de notre planète. Qu'est-ce que c'était bien pendant 3 mois, les oiseaux chantaient, les biches se promenaient dans les villes. Les baleines rentraient dans les golfs, dans les parties les plus proches de notre Terre. Et puis, un mois après, déconfinement, tout est en train de redonner. Les masques et les gants sont rejetés dans la mer, mettront des centaines d'années à se dégrader. Quel était le discours? Est-ce que ce monde sera différent après? Tout le monde y croyait. Et le monde a continué à agir et à vivre selon l'esprit de ce monde. Apportez-moi du sel dans une écuelle neuve. Apportez-moi du sel. Vous êtes le sel. Vous êtes le sel de cette terre, de ce monde. Apportez-moi ce sel pour que ce monde, cette source qui doit alimenter la vie de chacun, puisse être purifiée. Nous avons un rôle à jouer en tant que sel de cette terre. Ce que le sel nous apprend, c'est que c'est notre alliance avec Dieu qui nous purifie. Nous ne sommes pas purs par nous-mêmes. Aucun d'entre nous peut dire « je suis arrivé dans un état de sainteté tel que je puisse être dans ce monde une source de vie parfaite ». Non, nous sommes dans une alliance. Et c'est le Seigneur qui opère ce miracle dans notre vie d'être des agents de Christ, du royaume de Dieu, pour transformer le monde dans lequel nous vivons. Nous ne sommes pas de ce monde, mais nous sommes dans ce monde. Et notre action, notre rôle, c'est bien d'être cet agent qui transmet la sainteté de Christ, l'esprit de Christ, un esprit nouveau. Vous savez, le sel, on ne peut pas le consommer tout seul. Vous avez déjà essayé d'inviter quelqu'un et arriver à la maison et vous dire « Ah, qu'est-ce qu'on fait à manger ? Qu'est-ce qu'on mange ce midi ?» Ben, j'ai préparé une assiette de sel, tu vas voir. C'est un sel rose de l'Himalaya, impeccable. On se met à table devant une assiette de sel ? Je ne sais pas, pour ceux qui mangent ce midi, vous n'avez rien prévu ? Une assiette de sel. Non. Le sel ne peut pas être consommé seul. Il fait partie aussi de ce que nous sommes. C'est comment ce que nous sommes en tant qu'hommes et femmes de ce monde peut être assaisonné. C'est Marc qui dit que votre parole soit assaisonnée de sel. J'entends souvent des chrétiens qui sont du sel à 100% pour tous ceux qui les entourent. Il n'y a que du sel. Le sel de l'évangile, la sanctification, la purification, la conversion, hein, la repentance. Il n'y a que le sel. Vous imaginez si Christ s'était comporté de cette manière en négligeant l'humanité de ceux qui l'entouraient, ses disciples. Est-ce que tu m'aimes, Pierre ? Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amitié pour toi. Est-ce que tu m'aimes, Pierre ? Tu sais que j'ai de l'amitié pour toi. Est-ce que tu as de l'amitié pour moi, Pierre ? Oui, Seigneur, tu sais toutes choses. J'ai de l'amitié pour toi. J'arrive pas à te dire je t'aime à cause de mes fautes, de mes trahisons. Mais tu sais toutes choses. Christ s'est mis à niveau de Pierre. Est-ce que nous pouvons, nous aussi, être ce sel de la terre, mais, je dirais, avec une humanité sanctifiée qui est remplie d'amour et de grâce ? C'est là que nous avons... Vous savez, ceux qui sont uniquement du sel pour les autres finissent par brûler. Et quand on voulait détruire une ville, on abattait les murailles et puis on mettait du sel partout. Parce que le sel brûlait tout. Si vous voulez débarrasser votre jardin ou vos herbes folles à un endroit, vous mettez de l'eau hyper salée, un kilo de sel pour quasiment un litre d'eau, un peu de vinaigre blanc aussi pour faire bonne mesure, et vous mettez ça, ça brûle. Et il y a des chrétiens qui sont comme ça, ils brûlent. Ils sont tellement remplis de cette volonté. Ce n'est pas par volonté de nuire, mais ils veulent tellement apporter. C'est dans mon humanité que Christ se révèle et que ce sel prend à ce moment-là une saveur tout particulière parce qu'il parle, il révèle. Il donne du goût, il donne de la saveur. C'est vrai que moi j'ai toujours tendance, souvent ma femme, mais aussi les patientes, je mange avec les patientes deux fois par semaine, et j'ai pas mal de patientes qui m'ont fait la réflexion. Quand j'arrive à table, je suis toujours en retard, donc je mange, je prends les plats un petit peu à la va-vite, et la première chose que je fais, je me sers et je mets du sel. J'ai pas mal de patientes qui me disent, mais vous goûtez pas d'abord ? Ben non. Je mets du sel. Il faut mettre du sel dans ce que nous sommes et ce ce que nous vivons, mais sans excès, il faut laisser Christ nous donner ce dont nous avons besoin pour le révéler. Vous êtes le sel de la terre. Et là, Christ s'adresse à ceux qu'il a décrits un peu plus tôt comme des pauvres en esprit, des affligés, des doux, des miséricordieux, des cœurs purs, des persécutés à cause de la justice. Ce qui fait la saveur du croyant que nous sommes, chacun d'entre nous, c'est cette personnalité décrite dans les béatitudes. C'est ça qui fait de nous le sel de la terre. C'est la mise en pratique de l'enseignement de Jésus, de ses paroles, de nos vies, tous les jours, tous les jours. Comment le sel peut-il perdre sa saveur? Moi, ça a toujours été un mystère. Ça m'est arrivé, il y a quelques 5-6 mois, j'ai retrouvé un sachet de fleurs de sel que j'avais acheté il y a au moins 5-6 ans. Et vous savez quoi? 5-6 ans après, il était toujours bon. Et ça a toujours été un mystère jusqu'à ce que je m'intéresse un petit peu à la question. Et en fait, lorsque Matthieu parle du sel qui peut devenir fade, en fait, il parle de la manière dont, à son époque, on fabriquait et on mettait à disposition du sel pour l'alimentation. En fait, dans le monde romain, le sel était absolument pas aussi pur que le sel que nous avons dans nos salières. C'était souvent, une forte proportion de cristaux qui était semblable au sel, au sodium, et puis une part de sodium. Mais dans cette époque-là, ce sel-là, quand il prenait l'humidité, eh bien le sel se dissolvait, fondait, disparaissait, et il ne restait que des cristaux qui n'avaient aucune saveur, aucun goût et aucun intérêt. Mais c'était la manière de fabriquer le sel d'utilisation. Alors là, du coup, j'ai compris, je dis, mais oui, c'est pour ça. À l'époque de Jésus, de Matthieu, l'époque des Romains au niveau d'Israël, c'était ce sel-là qu'on utilisait. Et s'il prenait de l'humidité, il devenait fade, et qu'est-ce qu'on en faisait? Bah rien. Parce que du coup, on s'en débarrassait, ça n'avait aucun intérêt. Ah. J'ai envie de dire que, techniquement, on comprend que le sel disparaisse et perde sa saveur. On retrouve cette explication dans la Bible du Sommeur, qui l'explique bien. Mais ça veut dire aussi que si nous ne sommes pas porteurs et que nous ne préservons pas la nature de Christ en nous, ce qui fait de nous le sel de la terre, eh bien, l'humidité nous gagne et ça disparaît. Ne croyons pas que ce que nous avons reçu de Dieu et qui fait de nous des hommes et des femmes particuliers, particulières, singuliers et singulières, ne croyons pas que ce que nous avons reçu nous est donné, je dirais, ad aeternum, sans que nous ayons à entretenir cette nature de Christ en nous. Par la lecture de la parole, par la relation avec Dieu dans la prière, par l'intercession, par la louange. Si nous avons cette aptitude à cultiver notre nature, alors nous gardons notre saveur. Mais si nous laissons les choses en l'état, petit à petit, nous perdons de notre saveur. Je ne vais pas aller plus loin, mais je crois que le monde a besoin. Vous vous rappelez de cette parole? Le monde attend la révélation des fils de Dieu. Une parole de Paul. Le monde attend la révélation des fils de Dieu. Ce que j'ai vu cette semaine à la télévision, je peux vous assurer, il y a eu un grand dossier uniquement pour montrer le mauvais côté de ce que peut être l'Église dans son message, dans sa volonté de dominer, d'avoir raison, etc., de ne pas être à hauteur de l'homme de notre temps. Mais aujourd'hui, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Et à ce titre-là, nous avons et j'ai la responsabilité de demeurer dans ce que j'ai reçu, afin d'être toujours et encore un peuple de témoins qui parle de la grâce qui se trouve en Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, nous voulons te remercier de ce que cette saveur que nous avons, ce goût que nous apportons au monde, ne vient pas de nous, il vient de ta vie en nous. Nous sommes véritablement de ceux qui ont reçu le don de la vie. Et nous avons sur cette terre une place à tenir pour révéler ce que tu es. Nous sommes la lumière du monde, tout comme toi, toi en nous. Alors Seigneur, que cette parole que nous partageons puisse cheminer dans notre cœur, notre esprit, et que nous puissions, là encore, accepter que ton esprit nous transforme, agisse en nous, et nous fasse entrer dans une nouvelle dimension de vie. Au niveau personnel, Seigneur, j'ai besoin de demeurer en toi. J'ai besoin, si je veux être le sel de cette terre et ne pas perdre ma saveur, j'ai besoin de toi et de l'action de ton esprit. L'Église tout entière dans ce monde a besoin de se remplir, de se transformer, là aussi, à ton image. Rencontre-nous, Seigneur. Amen. 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 Nous arrivons.